Marilène Biguier, vous êtes à l'origine de la création de notre réseau. Celui-ci a demandé du temps, de l'ingéniosité, du partage, de la coopération. Dites-nous comment vous avez procédé.
J'étais à l'époque assistante sociale sur le quartier de la Chancellerie et plus particulièrement du Moulon. Et donc c'est dans ce contexte des années, on va dire 90, 89, 90, donc où on voyait, nous, professionnels, apparaître énormément de chômage. Les gens commençaient à vraiment être en difficulté. Le RMI n'existait pas encore, il y avait, etc. Donc des gens de plus en plus en difficulté. Et nous-mêmes, travailleurs sociaux, on se disait, mais dans nos visites à domicile, dans nos différentes rencontres avec les... ces familles ont rencontré des gens qui avaient des capacités, des potentialités. Tous, autant que faire se peut. Et j'ai souvenir d'un monsieur qui avait été salarié comme menuisier, chez lui, bricolait plein de choses. D'autres qui avaient des créations, j'allais dire, artistiques à la maison. Et je me souviens qu'il y avait des collègues qui disaient « Mais si on pouvait faire une boutique où on vendait tout ça ?» Lors d'un colloque sur le travail social, il y a eu dans un atelier la présentation par Claire Hébert-Suffrin les réseaux d'échange réciproque de savoir. Et là, ça a fait un déclic dans la tête, en tout cas dans la mienne et dans celle d'une collègue sur le sud, mais on va s'arrêter aujourd'hui à Bourges-Nord. Et donc du coup, faire cheminer cette idée et puis de se dire, mais oui, c'est vrai, assistante sociale, en fait, je rencontre des gens, mais même si dans notre idée, notre souci, c'est d'aller vers leur autonomie, bien souvent, il y a plein de freins parce qu'on est pris sur le... les besoins alimentaires, financiers, etc. Mais en tout cas, comment valoriser toutes ces potentialités? Et donc, du coup, je me suis dit, eh ben, tant pis, je l'expérimente au pif, sans dire que c'est un échange de savoir. Et le premier échange a été, je crois, la mise en relation d'une dame asiatique qui avait envie d'apprendre à tricoter. Et donc, je l'ai mise en relation, sans forcément formaliser les choses dans ces termes-là, avec une dame qui était handicapée. En fauteuil, et qui tricotait beaucoup, et donc du coup, et qui habitait à l'autre bout des Gibjons, et on n'était pas du tout dans les mêmes classes sociales, et ça a super bien fonctionné. Et puis donc du coup, c'est avec ces premières personnes qui ont été en échange qu'on a essayé d'analyser ce qui s'était passé, et du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve un lieu pour essayer de le formaliser. Donc ça a été le centre social de la CAF, puisque c'était aussi la CAF qui était mon employeur. Le centre social de la CAF qui nous a permis d'avoir une permanence. C'est cette première dame handicapée de l'échange tricot qui a tenu les premières permanences. Et puis on peut la nommer puisqu'elle va paraître aussi, c'est Cerise qui a été aussi une des premières échangeuses, si on peut dire comme ça, qui a investi beaucoup là-dessus. Et puis petit à petit, ça s'est greffé. Et puis ça s'est développé. Et puis j'ai une collègue qui est venue avec moi contribuer au développement de ce réseau. La CAF l'a soutenu et petit à petit...
La CAF a toujours été très présente, dire.
La CAF a toujours été présente puisque c'était notre employeur et qu'il l'entérinait.
Et puis c'est un peu dans la vocation.
Mais c'était nouveau pour le travail social. C'était au moment où est né le développement social des quartiers, le DSQ, puis le DSU, qui a donné ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de la ville. Donc on était dans un moment à la fois où la précarité apparaissait et en même temps dans un moment où ce contexte se créait, ces développements sociaux du quartier où des habitants dans les quartiers nord se sont beaucoup mobilisés et né le comité des habitants. Et le comité des habitants a été très très rapidement un partenaire. Notamment, ce dont on parlera peut-être un petit peu plus loin, dans la naissance des échanges de savoir santé, puisque c'est avec le responsable de la commission santé du comité des habitants que nous avons mis en place ces échanges. C'était une autre manière d'aborder, de prendre d'autres thèmes que des savoirs. C'était aussi travailler sur nos questions de santé et montrer qu'on avait aussi des savoirs là-dessus. Et puis, est apparu de plus en plus de liens. On a fait des formations. Du coup, on s'est dit, mais si on veut que ce réseau se développe, il faut qu'on forme les habitants. Et donc, le mouvement national, à l'époque, avait des... personnes qui se déplaçaient pour faire les formations sur place. Et c'est ainsi que Nicole Borocco et Yvette Moulin sont venues très vite faire des formations. Et on a fait des formations qui étaient communes, professionnelles et habitants. Et
Yvette là, Moulin, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'université sociale qui a été lancée par le réseau
c'est
il y a
ça,
déjà 2 ans.
Qui, avec qui nous avons travaillé à l'écriture du livre La Chancelle.
Et qu'on trouve à la médiathèque de Bourges.
Voilà, donc ça a donné... Voilà. Puis... tout allait bien, on s'est commencé à bien se développer et on avait dans la tête un petit peu, nous deux, les AS, mais avec les quelques personnes qui étaient à l'origine, de se dire maintenant il faudrait qu'on arrive à faire une association. Mais on se rendait bien compte que faire l'association, si on n'avait pas une permanente, une personne permanente, homme ou femme, mais ce n'était pas dans le genre, là, qui maintienne ça et qui fasse que ça vive, on s'était dit, ça va clapoter parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça. Donc on avait une personne qui était repérée et on avait vu avec la CAF, si la CAF ne pouvait pas la salarier, et à l'époque, dans les contrats aidés qui existaient, je ne sais plus comment ils s'appelaient, pour déjà constituer, vraiment être sûr que ça marche, et puis en même temps fonder l'association. Fin 96, la direction de la CAF a changé et le nouveau directeur n'a pas souhaité aller dans ce sens-là. Et donc, lors d'une formation qui s'appelait « Des savoirs sur la ville », qui était animée par Yvette Moulin, on a en urgence bâti la base de l'association et créé les statuts. Avec les habitants, enfin ceux qui, les membres du réseau qui participaient à cette formation, en soirée, on faisait les réseaux de l'association. Donc c'est né un peu en urgence, j'allais dire, l'association, entre guillemets urgence, mais voilà. Et puis, après ça s'est déroulé. On a beaucoup travaillé, je pense que dans cette période, et beaucoup travaillé sur la création collective. Et de mettre en place des choses qui rassemblaient tout le monde et qui faisaient projet et qui avaient de l'impact sur le quartier. Et puis comme ça se développait dans cette période-là assez facilement,
Marie-Hélène, on fait un grand bond en avant. La société a changé. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on était avant le RMI, qui est maintenant le RSA. Le chômage est toujours là, la précarité, ça s'est accru, la vie dans les quartiers a changé. Et le réseau est toujours plus indispensable que jamais. Mais quel regard vous portez ? Est-ce que vous feriez les choses autrement ? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui que le réseau s'ouvre à d'autres réalités ?
Alors, je ne sais pas complètement répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'il a sa place et que le refaire autrement, non, parce qu'il est bien parti à la base avec des habitants du quartier. Et ça, je pense que c'est fondamental d'associer les habitants, les adhérents, à la construction de ce projet-là, à devenir de plus en plus auteurs de leur vie, acteurs dans la cité, j'allais dire. Et je crois que le réseau a, ces dernières années, c'est toute cette période de développement, a su jouer ce jeu, a su avoir ce rôle. Et ce n'est pas pour rien que la CAF l'a reconnu espace de vie sociale, je ne sais plus quelle année. Mais oui, je pense que le réseau doit continuer à aller dans ce côté, augmenter le pouvoir d'agir des habitants.
Et pourtant, les habitants, certains répondent, d'autres non. On est quand même à un moment où il y a une espèce de renfermement. On le voit avec les TDC jeudi. Il y a beaucoup de gens qui ne participent pas, même si ça se passe en bas de chez eux. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ce projet, et au-delà, la vie collective, reste collective ?
Je pense que c'est effectivement un problème de notre société aujourd'hui, et la démarche participative n'est pas évidente. Donc je pense qu'il faut vraiment aller vers, et il faut aller vers, et le réseau a cette chance-là de pouvoir aller vers et de dire aux gens « je te reconnais parce que tu as des savoirs. Je te reconnais parce que je sais que tu peux faire ça ». Oui, je pense à quelqu'un à qui j'avais sollicité pour un échange et qui était complètement repliée sur elle-même et enfermée chez elle, et à qui j'ai dit un jour, je suis allée frapper chez elle et je lui ai dit « j'ai besoin de vous », alors qu'elle refusait que l'assistante sociale vienne en visite chez elle. Et je lui ai dit « j'ai besoin de vous », ça l'a beaucoup troublée, je dois dire, et pour que finalement elle finisse par accepter. Et c'est « j'ai besoin de vous, vous êtes important ». Je vous reconnais, nous vous reconnaissons comme un acteur possible. Alors, effectivement, au début, ça va être des petites choses. Et puis, ça ne va pas marcher à tous les coups non plus, il ne faut pas rêver. Hein. On n'est pas des magiciens. Mais je crois que cette porte d'entrée du savoir et de redonner confiance, c'est quelque chose qui est important. Alors après, oui, les gens ont plein de peur. Moi, j'entends des choses, j'ai entendu, ne serait-ce que dimanche, au forum des associations, des gens qui m'ont exprimé aujourd'hui leur peur d'habiter dans ce quartier, qui habitent et qui ont peur, qui n'avaient pas peur avant. Et moi, j'avais l'impression qu'on était beaucoup moins... Ça m'a vraiment interpellé cet échange que j'ai eu avec cette dame, qui n'est pas quelqu'un de peureux et qui aujourd'hui a de nouveau peur. Et je me dis, c'est des lieux cités qui font peur. Alors comment on va aller à la rencontre de ces lieux, de ces gens ?
Mais si les gens ont peur, ils appuient ça sur des réalités, du bruit, du vandalisme, un manque de respect.
Tout à fait, qui se redéveloppe aujourd'hui. Parce que quand vous posiez la question de comment vont les quartiers aujourd'hui ou qu'est-ce qui se passe, moi j'ai eu l'impression qu'on a eu une période de creux, beaucoup moins de vandalisme, plus de respect, et puis qu'aujourd'hui ça redémarre. Et ça, oui, c'est une réflexion collective qu'il faut avoir, y compris sur une forme de vie communautaire qui commence à exister aussi. Et là, comment on peut travailler en intercommunautaire sur des questions qui sont des questions qui se posent à notre société et à nous tous au quotidien. Et là, je crois qu'il faut qu'on vraiment on fasse une réflexion à l'intérieur du réseau, mais aussi avec d'autres. On n'a pas la science infuse.
Bien, Mère Hélène, on va rester sur cette question. Merci pour votre témoignage.
Merci à vous.